des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Priscille Lafitte.
Lydia Rambourg, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios, merci d'être là. Vous êtes historienne, critique d'art, écrivain. Vous êtes spécialiste de la peinture du 19e et 20e siècle, particulièrement de la seconde école de Paris. Et votre ouvrage, L'école de Paris 1945-1965, constitue pour cette période la référence essentielle et a reçu un prix de l'Institut. Lydia Rambourg, vous avez également rédigé un dictionnaire des peintres paysagistes français du 19e siècle. Vous avez rédigé un certain nombre de monographies. Et pour compléter ce tableau, si j'ose dire, vous tenez la chronique hebdomadaire des expositions dans la Gazette de l'hôtel Drouot. Et vous êtes nouvellement élue correspondante à l'Académie des Beaux-Arts. Alors cette émission Parcours a pour but de vous présenter, de vous permettre de raconter votre cheminement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'Institut. Commençons par vous connaître en tant qu'historienne. Vous avez un parcours universitaire classique ou vous êtes plutôt une autodidacte ?
Mon parcours est tout ce qu'il y a de plus classique. Et ce qui est très émouvant pour moi de me trouver maintenant aujourd'hui dans cette grande maison, c'est que j'ai fait mes études en face, à l'école du Louvre, donc dans ce palais du Louvre, qui abritait à l'époque les salles de cours, la salle Courageot et le grand amphithéâtre. Et il y a le pont des Arts qui permet justement d'arriver à l'Institut, à l'Académie. Alors, mes études sont donc très traditionnelles, des études d'histoire de l'art que j'ai suivies avec des maîtres. Je dis maîtres volontairement parce que pour moi, ce sont des êtres d'exception, des grands historiens de l'art qui m'ont permis sûrement d'être ce que je suis aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment façonnée. Le départ, c'est tout simplement une appétence, je crois, à l'art qui m'est venue très jeune en regardant tout simplement des livres. Je consulte chez mes parents des ouvrages d'art. Votre
famille était dans l'art ?
Ma famille est musicienne. J'aurai peut-être l'occasion d'évoquer cette partie aussi de ma vie qui a été consacrée pendant une vingtaine d'années à la musique. Mais mon père était violoniste, maman pianiste. Et donc, j'ai vécu dans ce climat musical et artistique. Alors, la peinture était moins présente chez mes parents, mais elle l'était à travers les ouvrages, les livres que mon père avait achetés et continuait d'acheter. Donc, mes yeux se promènent au gré des pages que je feuillette. Et ça peut être même les petites reproductions dans le Larousse, vous voyez, des images sépia, pas de couleur. Mais je vois les tableaux de David, de Delacroix, les tableaux de la Renaissance. Et ça, vraiment, je crois que c'est un déclic qui a été déterminant. Et j'ai envie d'aller au Louvre. Et mes parents m'emmènent au Louvre. Je dois avoir 8-10 ans. Et là, vraiment, je crois que c'est une passion qui s'est enracinée et qui ne s'est pas arrêtée depuis et qui n'a fait qu'augmenter, que se dilater. Et donc,
que vous avez construite et nourrie seule, en fait, en étant enfant.
Oui, tout à fait. Par curiosité, ce désir vraiment d'aller toujours voir, de découvrir des images. Parce qu'au départ, c'est vrai que c'est une image qui me plaît. La peinture, c'est une autre histoire et je le découvrirai en faisant mes études d'histoire de l'art. Mais au départ, c'est vrai que inconsciemment, c'est quand même quelque chose qui est composé, qui a une harmonie et qui dégage de la beauté. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Donc je vais au Louvre et j'en demande toujours plus. Donc au départ, traditionnellement, puisque ça correspond à peu près à mes études, mon entrée en sixième, c'est l'Égypte, c'est donc tout l'art classique, l'archéologie, la Grèce, Rome. Donc je vais d'abord dans ces salles et puis après c'est la peinture, la grande peinture, 17e, 18e, 19e. Et voilà, donc ça me donne déjà une sorte de nourriture, si vous voulez. Et quand je termine mes études secondaires, que je passe mon bac, j'ai qu'une idée, c'est d'entrer à l'école du Louvre. Et je rentre à l'école du Louvre.
Et vous dites, vous avez dit un peu plus tôt que vous avez été musicienne pendant 20 ans.
Oui, alors je fais de la musique bien sûr chez mes parents. De par la proximité familiale, je suis amenée quand même à faire du solfège. Mais je ne fais pas de piano et je ne fais pas de violon. Je fais un peu de danse. Et très vite, c'est le chant. Et le chant, ça c'est aussi une activité qui va être essentielle pour mon écriture par la suite. Donc, je rentre dans un cœur qui est constitué à ce moment-là, c'est le cœur des enfants de l'Opéra de Paris. Parce qu'il faut se rappeler que Carmen rentre au répertoire de l'Opéra Garnier. Avant, c'était donné à l'Opéra Comique. Il y a un cœur d'enfants qui est important, la garde montante au début du premier acte. Et donc, il faut un cœur d'enfants pour jouer et chanter ce cœur. Et donc, il y a une chorale qui se crée. Donc, il y a des auditions. Et mes parents me disent, écoute, tu aimes chanter, présente-toi. Et voilà, je chantais très juste, j'avais une très bonne oreille, j'avais une très jolie voix. Et donc, je suis prise tout de suite. Et mon frère sera également avec moi, mon frère est beaucoup plus jeune, mais il est pris également. Et tous les deux, nous allons chanter sur la scène de l'opéra pendant 5-6 ans. Donc, chantant dans Carmen, faisant aussi la création, l'entrée au répertoire de Tosca, qui était aussi à l'opéra comique et qui rentre à l'opéra. Et puis après, il y aura Boris Godounov, il y aura également Jeanne Aubuchet. Et puis que je n'oublie rien. Et puis le dernier ouvrage, ce sera Le Vote Sec, que met en scène Jean-Louis Barrault et dirigé par Boulez. Boulez que je retrouverai après aussi plus tard.
Nous parlerons plus tard de cette écriture, hein, de l'art que vous évoquiez à l'instant. Pour terminer l'évocation de ce parcours, comment passe-t-on de l'école du Louvre au métier de critique d'art? C'est une question qui taraude beaucoup d'étudiants en histoire de l'art. Comment fait-on pour être critique d'art?
Alors, quand j'étais à l'école du Louvre, je ne pensais qu'à mes études. C'était un vrai bonheur, mais vraiment du bonheur. C'est-à-dire que je m'épanouissais dans des études qui me comblaient aussi bien intellectuellement qu'artistiquement. J'avais des professeurs exceptionnels. J'ai évoqué tout à l'heure des maîtres, parce que vraiment, pour moi, c'était des historiens de l'art qui étaient en même temps des humanistes. Alors là aussi, ma vie, elle est faite de rencontres et de providences qui se coupent et qui se recoupent. C'est-à-dire que parmi mes professeurs, en dernière année d'études, donc en muséologie, j'ai Monsieur Germain Bazin. Et Germain Bazin, je vais le retrouver plusieurs années plus tard, parce que je vais avoir pendant 2 ans une activité à la Fondation Wildenstein. Je vais travailler sur le catalogue raisonné de Géricault. Germain Bazin est donc le maître d'œuvre de cet ouvrage. Il a besoin d'une assistante, il y en a déjà eu quelques-unes. Et puis moi, j'arrive à un moment où je viens de terminer mon dictionnaire des peintres paysagistes et je n'ai pas commencé mon école de Paris, mon dictionnaire sur les peintres de l'école de Paris. Et donc, pendant ces 2 années... qui correspondent aussi à un changement dans ma vie personnelle. Je me permets de l'évoquer, c'est que j'ai terminé donc ce premier livre et puis je suis mariée, j'attends ma fille. Et pendant ces 2 années, finalement, je vais travailler auprès de Germain Bazin, qui lui-même était aussi à l'Académie en tant que dans la section des membres libres. Et la proximité de Germain Bazin a été pour moi aussi déterminante parce que c'est un homme qui m'a... D'abord, de par son immense savoir, sa culture, mais gigantesque. Moi, j'étais une petite chose à côté de lui. Je travaillais vraiment dans le même bureau. Quand il était là, on travaillait sur les dossiers et on compulsait les fiches des dessins, puisqu'à l'époque, c'était donc la partie dessinée qui ne me concernait. Et vraiment, c'est un homme qui m'apportait énormément, la façon dont il avait de regarder aussi son regard. Et puis, je me faisais taper sur les doigts si je n'avais pas la bonne méthode de travail. Donc tout ça, c'est des éléments qui m'ont constituée. Et de même qu'à l'école du Louvre, j'ai eu un autre professeur qui a été déterminant pour moi, bien que je n'ai pas suivi cette discipline, c'est Monsieur Pierre Verlet, qui était donc conservateur honoraire en chef des collections d'objets d'art au musée du Louvre. J'ai passé mon mémoire avec lui sur Versailles, et Monsieur Verlet apprenait à ses élèves à regarder. Et ça, c'était tellement important. Que donc j'ai été formée vraiment par le regard et par le travail de l'écrit, si vous voulez, parce qu'à l'époque, je ne suis quand même pas dans une période encore trop éloignée, mais il n'y avait pas du tout de polycopier comme les élèves en ont maintenant. Il n'y avait pas de photocopieuse, on devait chercher soi-même tous ces documents photographiques. Donc ça faisait qu'on était vraiment mais jeté dans cet immense monde de l'art. Et il fallait nager, il fallait se débrouiller, il fallait se mettre vraiment à chaque fois la tête hors de l'eau et se dire voilà, j'avance. Et à chaque fois, on accumulait comme ça des quantités de choses. Voilà, donc je passe mes diplômes et je sors de l'école du Louvre. Et alors après, c'est une autre histoire parce que qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient? Et ça, c'est effectivement un domaine nouveau parce qu'on ne sait pas comment on peut se débrouiller. Moi, je suis d'une génération où, c'est vrai, il n'y avait pas autant de développement d'activités, de professions dans la culture comme il y en a maintenant. Donc, c'était extrêmement limité. Ça a toujours été un petit monde, mais vraiment, dans les années 70, c'était un petit monde. Moi, je ne voulais pas m'orienter dans les musées. J'avais très envie d'écrire, mais je ne savais pas comment ça pouvait venir et comment ça allait se déclencher. Donc, j'ai passé le concours des monuments historiques et j'ai commencé à faire des conférences dans certains monuments à Paris. Et puis, j'ai beaucoup travaillé aussi au château de Breteuil où tous les week-ends, j'allais faire visiter le château avec d'autres étudiants aussi en histoire de l'art qui étaient en fin d'études ou qui avaient terminé comme moi. Et puis, bon, j'ai commencé à faire quelques petits textes, des articles qui m'ont été demandés. Je ne sais plus comment c'est venu, mais mes premiers textes, je sais que mon premier article, ça a été Picasso. Alors vraiment, c'était quand même mettre la barre très haut. Mais enfin, c'était un article qui m'avait été demandé. Bon, c'était une mise à l'épreuve aussi, je crois. Et en fait, c'était par une relation. C'était un ouvrage de langue française destiné aux étudiants canadiens, mais qui parlaient français. Et c'était donc une histoire de l'art. Donc, il y avait des articles à faire sur des quantités de sujets. Et moi, j'ai commencé comme ça à en faire quelques-uns. Et puis alors après, cet organisme, on va dire, m'a mis en relation avec le rédacteur en chef des éditions Grange Batelière, qui à l'époque publiait une histoire de l'art hebdomadaire, donc par ordre alphabétique, et c'était Les Muses. Et c'était, je crois, une des premières publications qui se trouvait dans les kiosques et que le public pouvait suivre de semaine en semaine. Alors on commençait par la lettre A, puis on a fini, bien sûr, avec la lettre Z. Moi, je suis arrivée en cours de route, si je puis dire, et là, j'ai travaillé pendant à peu près 2 ou 3 ans à faire des articles dans toutes les directions. C'est-à-dire que j'avais aucune spécialité. C'était aussi bien de l'architecture que de la sculpture, de la peinture, des courants, des mouvements d'art que je présentais, donc que j'expliquais, qui pouvaient faire 1 feuillet, 2 feuillets, 3 feuillets. Voilà.
Et justement, comment s'est faite alors la spécialisation dans la peinture du 19e et du 20e,
la spécialisation,
dans l'école de Paris?
Elle est venue que, donc, pendant toute cette période où forcément j'ai quand même beaucoup de temps libre, et ce temps libre, il n'a pas été libre comme ça. C'est-à-dire que je me suis gavée, je dis, parce que c'était vraiment ça. J'ai été au Collège de France suivre les cours de M. Chastel. J'ai été au Collège des Hautes Études, à l'École des Hautes Études, pour suivre les séminaires de Roland Barthes. Et ça, c'était une chose qui m'a... Ça aussi, ça a été un moment d'exception dans ma vie, parce que l'écriture, elle est venue de là, je crois aussi. Ça a été déterminant. Et puis, je lisais énormément. Et j'allais dans les galeries, parce qu'il y a un moment où forcément, à l'école du Louvre, je ne savais pas ce qui se passait du tout dans l'art moderne, on va dire, et contemporain. Mais mes études terminées, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une époque quand même assez extraordinaire. J'entendais quelques noms, j'avais quelques noms quand même en mémoire. Mais je me suis dit, où voit-on la peinture et la sculpture de notre temps, de mon temps? Donc, je commence à aller dans les galeries. Alors, c'est très sage au début, je dis sage parce que où je vais? Je vais avenue Matignon, je vais Faubourg Saint-Honoré. Mais Faubourg Saint-Honoré, il y a quand même une grande galerie d'avant-garde, c'est la Galerie de France, qui à ce moment-là était au numéro 3, où je découvre des artistes qui s'appellent Artung, qui s'appellent Prasinos, qui s'appellent Marian, et je découvre un monde que j'ignorais complètement. Alors, je vais plus loin, je pousse plus loin ma curiosité. Je vais dans d'autres quartiers. Aussi, rive droite, il y avait Madame Denise René aussi à l'époque, qui était rue La Boétie. Et ça, c'était aussi une découverte parce que tout l'art abstrait géométrique que je ne connaissais pas, eh bien, je l'ai découvert là. C'est-à-dire que les Vasarely, les Mortensen, les Piaubert, les Herbin, Magnelli, enfin, c'était là aussi tout un pan que je découvrais. Et puis, je vais aussi rive gauche, et donc là, je découvre aussi des quantités de galeries. Mais tout ça se fait sur plusieurs années.
Et donc, vous êtes aussi une autodidacte, en fait.
Je dirais pas que c'est autodidacte, parce que ça fait vraiment partie de la continuité de mes études. Ça, je pouvais pas le faire quand j'étais à l'école du Louvre. D'abord, j'avais pas le temps. J'étais dans mes études jusqu'au cou. Donc, je pouvais pas. Et puis, j'étais jeune, mais c'est surtout que je n'avais pas le temps. À partir du moment où je termine, j'ai mes diplômes en poche, je me dis, bon, mais j'en reste pas là, qu'est-ce que je fais? Je veux voir plus loin. J'aurais été au 19e siècle, j'aurais aimé connaître sûrement Delacroix, j'aurais aimé connaître Corot, j'aurais aimé connaître tous les gens de Barbizon. Je les aurais peut-être rencontrés, sans doute. Maintenant que je connais tant d'artistes importants et qui sont quand même des figures emblématiques de l'art moderne, je me dis que sans doute j'aurais rencontré aussi ces grandes personnalités. Non, je vais faire une rencontre qui va être déterminante, c'est le critique Jean Bourret. Alors, je rencontre Jean Bourret en 78, et là, Jean Bourret me dit, eh bien, j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse des recherches pour un ouvrage que je prépare sur les petits maîtres du 19e, donc sur tout ce qui déclinait de l'école de Barbizon. Et j'ai travaillé pendant 2 ans, mais quasiment toute seule. C'est-à-dire que Jean Bourret m'avait fait confiance. Il avait parfaitement compris ce qu'il fallait faire pour que ça démarre. D'ailleurs, il m'avait dit, mais si personne ne vous met le pied à l'étrier, ça ne va jamais démarrer. Alors allez-y, jetez-vous à l'eau, vous me faites les recherches et puis ensuite, on verra comment le livre s'écrit. Et puis, toujours cette providence qui tout de même est tellement, pour moi, elle a un côté qui me bouleverse parce que ce ne seront que des rencontres finalement. Et mon chemin, il est balisé de rencontres et de regards qui se tournent vers moi. Donc Jean Bourret va subitement disparaître. Il est emporté par une maladie en un mois. Et en 1980, je me retrouve avec tout un travail que j'ai fait et sans suite. Alors je suis absolument désespérée. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? À l'époque, je travaille à mi-temps chez un antiquaire du boulevard Haussmann, Jean de Lamine, qui était un très grand antiquaire, 17e, 18e, travaillant avec les plus grands marchands comme lui. Et là, c'était en relation, bien sûr, avec le mémoire que j'avais fait sur Versailles. C'était la continuité de toute mon aventure avec le 17e et le 18e siècle dans l'histoire des demeures françaises, des demeures royales. Mais en fait, c'était la peinture qui me tenaillait. Et donc, la rencontre de Jean Bourret, c'était vraiment une brèche qui ne pouvait que s'écarter, que s'ouvrir. Jean Bourret disparaissant, je me suis dit, ben voilà, c'était trop beau, ça s'arrête. Et ça ne s'est pas arrêté parce que je me suis dit, je ne peux pas laisser ce travail. Quoi qu'il arrive, je continue. Et j'ai continué à travailler. C'est-à-dire, j'étais dans les archives jusqu'au cou et je dépouillais les inventaires des musées de province qui sont très riches en 19e siècle, puisqu'il y a beaucoup de dépôts aussi du Louvre. Et je remplis comme ça, des dossiers. Et un jour, le fils de Jean Bourret, qui était également éditeur, me contacte et me dit « Écoutez, je viens de racheter les éditions Ize Calande. » C'est vraiment une très belle histoire. Et le livre sur lequel vous travailliez, est-ce que vous avez continué à y travailler? Est-ce que vous pourriez l'écrire? Et je réponds « Oui !» Parce qu'il n'était pas question de dire autre chose. C'est « Oui !» Et donc, très bien. Alors, le contrat est signé. Et quand le livre est prêt, eh bien, nous l'éditons. Et donc, j'ai quand même encore travaillé 3-4 ans parce que c'était un travail de longue haleine, c'est des travaux de bénédictin. Et donc, le livre est sorti en 83. Et donc, cet énorme ouvrage qui était quand même dans le passé, bon, c'est un point qui est mis à la fin d'une page, mais il faut en tourner une autre. Alors, cet éditeur, Alain Bourret, directeur des éditions Ize Calande, édition prestigieuse, pose la question que j'attendais. Eh bien, ça s'est bien passé. Est-ce que vous pourriez, vous avez un projet? Est-ce que nous pourrions faire un autre livre ensemble? Et je dis oui. Et je dis, maintenant, je veux travailler sur des artistes vivants, parce que ce qui m'intéresse, c'est de parler d'artistes qui sont en activité. On a une époque d'une richesse extraordinaire. Il me dit oui, comme proposez-vous? Eh bien, je lui dis la Seconde École de Paris. Parce qu'il y a des peintres très connus, mais il y en a tellement d'autres qu'on ne connaît pas bien, qui sont méconnus, qui restent à découvrir, qui sont dans le purgatoire, et hélas, certains le sont encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas une période qui est bien encore remise par les institutions. Mais je vois là vraiment la chose qui va faire que je vais pouvoir m'épanouir vraiment dans l'écriture et dans peut-être ce qui va arriver et ce qui va déboucher sur la critique d'art. Donc, je commence ce grand travail, ce long travail, là aussi, de bénédictin, un travail fou, qui va me prendre presque 8 années.
On marque une petite pause. Lydia Rambourg, est-ce que vous peignez vous-même?
Non, Jamais. Je n'ai jamais peint, je n'ai jamais dessiné de ma vie. Et ça, alors, c'est aussi une énigme pour certains, parce que, alors, ça m'est difficile de parler de moi sur le plan de l'écriture, mais avec tout ce que j'ai pu maintenant engranger, les livres que j'ai publiés, et puis les articles, les préfaces qui s'enchaînent maintenant quand même à une rapidité, et puis surtout dans une quantité qui moi-même m'impressionne, comme je me retourne un petit peu, c'est que les artistes me posent la même question. Parce qu'ils sont étonnés de voir le regard que je porte sur la peinture, la façon dont je l'analyse et comme je la ressens. Alors ça, je pense que il y a sans doute des vocations et que ma vocation était là. Ça, j'en doute plus maintenant. Si au départ, c'était effectivement un désir immense de faire des études d'histoire de l'art, très vite, j'ai compris qu'il y avait quand même une prédisposition, que s'il y avait des personnes douées pour quelque chose, moi, je l'étais sans doute pour parler de peinture, mais modestement, parce que, vous savez, il faut rester toujours très, très humble. Mais c'est vrai que je suis quand même très... très bouleversée, parce que c'est vraiment ça. Je suis très touchée, très impressionnée de la façon dont beaucoup d'artistes me parlent de mon écriture et la façon dont j'écris. Mais ça, c'est pas à moi d'en parler.
On aimerait tout de même vous entendre sur cette façon d'écrire.
Oui.
Vous parliez tout à l'heure des parallèles entre le chant et l'écriture. Ça m'a beaucoup interpellée. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Alors, je voulais dire que travailler la musique comme je l'ai travaillée, c'est-à-dire en épluchant, en décortiquant les partitions. Donc oui, j'ai été dans ce chœur des enfants de l'Opéra de Paris, mais le chant a continué, c'est-à-dire qu'après j'ai pris des cours de chant, mais des vrais cours de chant avec des professeurs de chant. Et donc ma voix commençait à prendre une consistance, ça voulait dire quelque chose pour moi. Je m'entendais quand même, bien que c'est difficile de s'entendre, mais je prenais vraiment conscience de quelque chose qui était très troublant, parce que le chant, c'est le corps. Et puis là encore, Providence, mais Providence travaille, attention, hein. J'étais prête. Il s'est trouvé que là, se créait et fondait le chœur de l'Orchestre de Paris par Daniel Barenboim. Et je me présente.
Le fameux chœur.
Et je suis auditionnée donc par Daniel Barenboim et par Arthur Oldham, ce grand chef qui venait de l'Angleterre, donc un pays où il y a une grande tradition du chant choral. Et j'auditionne, déchiffrage, voix, bon. Et je me souviens parce que j'ai donné l'air de Chérubin, parce que ça, alors vraiment, c'était dans ma voix et ça, j'aimais parce que j'étais tout à fait à mon aise.
Dans les Noces de Figaro.
Oui, et donc Arthur Oldham me dit, oh, avec son accent anglais, mais tu as une voix formidable. Alors bon, bref, tu as des grandes chances, enfin, bon. Et puis j'ai attendu quelques mois et puis il y a eu les résultats et j'ai été engagée. Donc j'ai fait partie du chœur de l'Orchestre de Paris pendant 10 ans. Donc j'ai travaillé dans ce chœur en tant que choriste, mais très vite il y avait des concerts qui étaient donnés avec des petites formations pour des concerts de musique de chambre, et c'est vrai que j'avais une voix qui était très travaillée et qui avait là aussi une fraîcheur, qui avait quelque chose de... Je dis ça maintenant alors que je ne chante plus du tout et que je ne peux plus rien faire, donc j'en parle d'autant plus aisément, mais c'est vrai que ne travaillant plus ma voix, je ne peux plus du tout, je ne peux plus prétendre chanter les partitions que j'ai pu interpréter. Donc,
et les liens avec l'écriture alors ?
Alors les liens avec l'écriture, c'est là, c'est la relation vraiment avec une sensibilité par rapport à une partition. C'est-à-dire que je dis souvent, dans la peinture, dans la sculpture aussi, mais plus dans la peinture. Mais même dans la sculpture, il y a une musicalité, il y a l'harmonie, parce que l'harmonie, c'est l'essentiel, parce qu'une toile, pour qu'elle tienne, il faut qu'elle soit composée. Il faut donc qu'il y ait à la fois le dessin et la couleur, et même dans l'abstraction, c'est essentiel. Donc il faut vraiment qu'il y ait une harmonie plastique. Et la musique est là, d'ailleurs, du spirituel dans l'art. Kandinsky parle énormément de musique et beaucoup, un certain nombre, Klee aussi. Dieu sait s'il a écrit aussi un livre essentiel sur les relations, les rapports entre la musique et la peinture. Et moi, c'est une chose que j'ai vécue vraiment de l'intérieur. C'est-à-dire que travailler les partitions comme je l'ai fait avec des grands chefs, parce qu'il y avait Barenboim, il y avait tous ces grands amis qui l'invitaient à l'époque. C'est-à-dire, c'était aussi bien Boulez, que c'était Rostropovitch, c'était Zubin Mehta, c'était Seiji Ozawa, c'était Giulini. Et je participais, j'avais ce bonheur de participer à ces concerts de musique de chambre où on était très peu nombreux. C'est-à-dire qu'on était peut-être 16 voix de femmes, donc 4 voix par pupitre, ce qui est très peu. Donc, dans mon pupitre, moi j'étais soprane 1, parce que j'avais une voix qui montait assez bien, nous étions 4 Et là, c'est quasiment du solo. Mais même dans un chœur, on est censé chanter en solo, mais en faisant abstraction de sa personnalité. Il ne s'agit pas de que la voix monte et dépasse celle du voisin. Mais là, il y avait une homogénéité. Il y avait donc une discipline, et la discipline, elle est aussi dans l'écriture. Il y avait l'exigence, et il y avait ce travail d'aller au plus loin de la partition. Et moi, quand je regarde un tableau et quand je regarde une sculpture, c'est ça aussi. C'est essayer de... Bon, alors, bien sûr, je l'analyse, et ça, c'est de l'ordre de l'historienne de l'art que je suis, parce que j'ai les moyens, j'ai les outils pour le faire. De même qu'un peintre peint parce qu'il a appris à dessiner, il a appris à peindre. Le sculpteur, la même chose, il sait dégrossir son morceau de pierre. Donc, moi, j'ai appris aussi à regarder. Donc, je connais, si vous voulez, comment tout ça fonctionne un peu. Mais après, c'est presque là où ça devient, où on est tout seul et on s'expose et il faut y arriver, c'est qu'il faut sortir de son regard quelque chose qui va faire qu'on est rentré au plus près de la sensibilité de l'artiste. Et ça, j'avoue que je le fais assez facilement. Ça me vient, c'est une chose que je ressens bien. Et je me sens bien dans un atelier. Je suis quelqu'un qui parle assez volontiers dans un atelier. Mais comme je suis assez expansive et que j'ai ce côté extraverti, ça fonctionne tout de suite avec les artistes. Alors j'ai des relations assez privilégiées effectivement avec beaucoup d'entre eux, et certains deviennent des amis parce que ça ne peut devenir que de l'amitié après. Mais au départ, il y a quand même la peinture, l'art qui dicte sa loi. Et après, c'est vrai que alors on rentre, de même que quand on interprète un rôle ou qu'on chante une partition. Ben, y a une écriture, on la regarde, on l'étudie et on peut la déchiffrer. Moi, je déchiffre aussi la peinture et après, j'y mets ce que je dois mettre. Alors, l'écriture, il y a aussi tout le travail avec Barthes qui m'a beaucoup aidée.
Dans quel sens ?
Alors, Roland Barthes, moi, j'ai suivi ses séminaires à l'École des hautes études et puis j'ai suivi ensuite, après, au Collège de France quand il a eu son séminaire. Et en fait, c'était très différent de ce que l'on pouvait lire quand on avait des ouvrages de Barthes entre les mains. C'était un homme qui s'exposait, qui donnait vraiment ce qu'il avait comme connaissance, comme savoir, comme vulnérabilité aussi. Ça, c'est une chose qui me bouleversait, parce que c'était un homme qui exposait sa fragilité, ses doutes. Et dans l'écriture, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on doit être fort, on se protège, et en même temps, il y a un moment où il faut se libérer et se livrer, parce que sinon, on ne va rien faire passer. Donc, il faut essayer d'abord d'être toujours lisible, d'être compréhensif, parce que ça, moi, je tiens absolument à ce que mes textes soient lisibles. Parce que si on s'ennuie en lisant, c'est pas la peine, il vaut mieux lire autre chose et lire un bon roman, parce que ça sera mieux. Et donc, c'est plus difficile à expliquer, mais l'écriture, à travers Roland Barthes, instinctivement, il y a eu des choses qui se sont passées en moi, certainement, mais que j'ai du mal comme ça à cerner. C'est plus le côté musical, c'est vrai. Et je n'écrirais pas comme j'écris ça, j'en suis sûre, si je n'avais pas fait autant de musique. Ça c'est certain. Je le dis très souvent, parce que c'est réel.
Vous avez écrit beaucoup de monographies, notamment celles d'André Brasillier, Yves Brailler, Bernard Buffet, Jean Couty, Olivier Debré, Georges Mathieu, Edgar Stubble. J'en cite et il y en a beaucoup d'autres. Vous avez eu la chance de rencontrer chacun de ces peintres ?
Alors, avec mon école de Paris, là je dis mon école de Paris, quand j'ai préparé ce livre, il y avait deux phases dans mon travail. Il y avait les archives, là aussi. C'est inévitable. Donc, j'ai fait un dépouillement pendant 2 ans ou 3 ans de tous les catalogues de salons personnels dans les galeries, et puis aussi les catalogues des grands salons, c'est-à-dire salon de mai, salon des réalités nouvelles, les peintres témoins de leur temps, et puis tous les grands salons traditionnels. Mais enfin, là, j'allais un petit peu plus en surface, parce que salon d'automne, il y avait des milliers de peintres. Mais c'est surtout que pour l'École de Paris, les deux salons essentiels, c'était mai et réalités nouvelles. Alors, j'ai dépouillé toutes les archives. Et puis, à un moment donné, la deuxième phase de mon travail, ça a été de rencontrer ces artistes. Alors, certains n'étaient plus là. D'autres, pour ne pas dire les trois quarts, étaient encore en activité. Depuis, malheureusement, il y a un bon tiers aussi qui nous a quittés. Mais à l'époque, j'ai rencontré quand même des êtres exceptionnels qui étaient avec une œuvre colossale, qui étaient très célèbres, d'autres qui l'étaient moins, d'autres qui n'étaient pas connus ou oubliés. Et tout mon travail, ça a été ça. C'est de me dire, voilà une génération extraordinaire qui surgit après la guerre. Alors, il y a les grands aînés, des gens comme Brailler, justement, comme Carzou, pour citer les académiciens, comme Despierres, comme Renner, qui sont des aînés parce qu'ils ont commencé à travailler bien, bien en amont. Ils ont commencé dans les années 30, 40. Et puis, il y a la jeune génération qui a 20 ans, en 45, et qui, forte de tous ces exemples, aussi bien de l'exemple de Picasso, de Matisse, mais aussi de leurs grands aînés. Il y a Bonnard aussi, qu'on oublie souvent de citer, mais qui était très important pour cette génération, parce que c'était tout le côté fusionnel, toute cette ferveur de la couleur, toute l'harmonie. Et donc, il y avait ces deux générations qui cohabitaient dès 45, qui continuent à cheminer, à se retrouver, à être sur les cimaises, à être dans les mêmes galeries, à être également dans les salons. Les aînés invitent les plus jeunes. C'est comme ça que, au salon de mai, la grande tradition voulait que le salon de mai, qui naît de la Libération et dont la première édition est en 1945, sous la responsabilité et sous l'envergure, sous le rayonnement de M. Gaston Dille, parce que ça, c'était un homme extraordinaire, qui aimait les artistes, qui les soutenait, et qui a compris cette émergence qu'il y avait après la guerre, et qui va demander justement à des artistes comme Picasso, comme Chagall, comme Matisse, comme Miro, comme Labisse aussi, qui était à l'Académie, qui était un académicien, eh bien, d'inviter de jeunes artistes. Et alors, c'est comme ça qu'on voit arriver De Staël, De Staël invité par Germaine Richier, on voit arriver Mathieu, on voit arriver Debré, on voit arriver comme ça toute une génération qui va démarrer de cette façon prodigieuse. Alors, c'est vrai que je rencontre un certain nombre de ces artistes. Je vais un petit peu avancer. Quand le livre paraît, personne ne s'attend à voir un livre de cette importance, parce qu'en fait, c'est vraiment, on me dit souvent, c'est la Bible de cette génération. Mais je crois que c'est le seul travail qui a été fait d'une façon aussi, je ne dirais pas exhaustive, parce que je dois confesser qu'il y a quand même quelques peintres qui n'y sont pas et pour lesquels j'avais rien du tout à l'époque. Et à un moment donné, il faut que le livre paraisse. Alors, malheureusement, il en manque quelques-uns, pas beaucoup, mais il en manque quelques-uns. Le livre est épuisé, j'espère le rééditer parce que ça me tient très très à cœur et je sais que le livre est très demandé et qu'il est indispensable pour beaucoup de personnes, des chercheurs, des amateurs, des professionnels, enfin du monde de l'art. Et donc ce livre, c'est vraiment la somme la plus complète, je peux dire, qu'on peut trouver sur cette génération. Parce que ce que j'ai voulu, c'est montrer la diversité des courants et aussi ce que ces artistes partageaient. Donc, il y a aussi bien des figuratifs que des abstraits, des non-figuratifs, de l'informel, absolument toutes tendances confondues, sous classement alphabétique, parce que sinon ça aurait été très compliqué, d'autant que personne ne veut être enfermé. Et moi, la première, je refuse d'enfermer un artiste dans une case et dire voilà, c'est un abstrait. Non, il n'est pas abstrait. Là aussi, c'est un autre débat, l'abstraction, la figuration. On en parlera peut-être un autre jour. Mais donc, c'était ça qui était important. C'était que il y ait ce rassemblement de forces vives, d'expressions aussi diversifiées et qui montrent la vitalité de l'art à Paris pendant une vingtaine d'années. Ça continue aussi. Mais là, ça a été vraiment un moment assez exceptionnel.
On se retrouve dans un tout petit instant.
L'Académie française.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie des sciences.
L'Académie des beaux-arts.
L'Académie des sciences morales et politiques.
Pour vous,
une seule radio.
Sur Internet,
Canal Académie.
Lydia Robourg, pour revenir à ces monographies et au rapport que vous aviez avec les peintres, est-ce que vous soumettez vos écrits aux peintres ? Est-ce qu'il a un droit de regard ?
Très bonne question.
Sur ce que vous dites.
Très très bonne question, parce que pour moi, c'est mon témoignage de respect pour l'artiste. C'est-à-dire que j'ai toujours soumis mes textes à l'artiste. Toujours. Toujours, toujours, toujours.
Pour savoir s'ils font résonance avec l'artiste
Non.
Vous craignez
pour
pas
moi,
la censure.
Je vais vous dire, c'est une question de noblesse, de respectabilité. C'est ma façon aussi de leur dire merci. J'écris sur eux, ça les concerne très intimement, puisque je parle d'eux et je parle surtout de leur art, de leur peinture ou de leur sculpture.
Puis ce sont des telles monographies que ce sont des ouvrages qui font référence, donc...
Oui, mais c'est que pour moi, c'est eux qui doivent le lire en priorité, avant l'éditeur, avant quiconque. C'est à eux d'abord que je le destine, c'est pour eux.
Est-ce que, du coup, dans votre écriture, vous n'avez pas une petite tendance à l'autocensure ?
Pas du tout.
Du fait que pas ça va tout. Être lu.
Alors ça aussi, j'ai du mal à l'expliquer. Mais quand j'écris, je ne pense qu'à ce que je fais. Je ne pense même pas à si ça va être lu après. Je veux dire que je suis dans une écriture. Il y a une espèce d'ivresse aussi, parce que c'est un travail... Alors l'écriture, c'est un monde qui est... Et puis je suis peut-être pas aussi bien placée que les vrais que les écrivains pour en parler. Encore qu'on me dit mais c'est aussi c'est écrire, j'écris, c'est vrai que j'écris de plus en plus. Et c'est de l'écriture, c'est de l'écriture pure. Même si au départ il y a un support bien évidemment puisque j'écris sur quelque chose qui existe. Donc je ne suis pas dans le domaine de la fiction. Donc j'écris, mais c'est de l'écriture. C'est-à-dire que c'est un vrai travail d'écriture. Il faut former ses phrases. Il faut qu'il y ait au départ on commence. Il y a une colonne vertébrale et puis après on va mettre des muscles. On va mettre du sang. Tout ça va être vivifié. Ça doit vivre et un texte doit vivre. C'est ça qui est très important. Alors c'est vrai qu'après il y a ma sensibilité et je veux rester toujours, je veux pas outrepasser les frontières vraiment de l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'avant tout, je veux être d'abord fidèle à mon regard d'historienne de l'art et dire voilà un artiste, voilà ce qu'il a apporté, qu'est-ce qui précède, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il apporte.
Alors, contextualisation.
Donc, voilà. Donc ça, c'est l'histoire de l'art. Mais là-dedans, forcément, ça serait très embêtant et puis ça serait à ce moment-là comme simplement un CV, si vous voulez. Donc c'est pas ça. Il faut que l'écriture, elle vive. Alors c'est là où intervient effectivement
votre
style,
regard subjectif
l'écriture,
et votre
mon
écriture.
Regard intervient, ma sensibilité aussi. Et là, je suis dans mon truc. Et c'est vrai que parfois, je suis là, il y a une espèce d'entraînement et je me sens bien. Je me dis, oh là, ça vient bien. Alors c'est bon. Puis il y a des moments, ça cale et puis on peine. Et puis parfois, on met 2 heures pour écrire 3 lignes et pour faire le raccord avec ce qui précède. On ne comprend pas, ça ne vient pas. Et puis, alors c'est tout ça. Ça passe par des mouvements, des cooptations comme ça. On est des mouvances, on avance et puis on ne recule pas, mais on semble reculer. Puis on avance. Puis ça prend corps, puis ça commence à... Alors c'est vrai que c'est assez grisant aussi. Il y a un côté un peu grisant. Mais il n'y a jamais de risque.
Ah bon ?
Il n'y a pas de risque, je précise. Il n'y a pas de risque par rapport au chant. Parce que le chant, quand vous êtes exposé, que vous êtes sur scène, vous ne pouvez, pas vous permettre de rater ce que vous allez faire, de manquer votre note ou subitement d'être en décalage et de ne plus être avec l'orchestre. Non. Tandis que l'écriture, je fais une erreur, je suis à ma table, je vais gommer, je rature, j'arrache, et puis hop, je recommence. Donc c'est là aussi qu'il y a une espèce de protection peut-être. Mais non, moi pour en revenir à mon désir de faire lire mes textes aux artistes, pour moi c'est ce que je leur dois, c'est un respect.
Alors, est-ce que vous vous mettez dans l'écriture, est-ce que vous essayez de vous mettre à la place de l'artiste dans sa peau,
non, je peux pas. Non, je rentre dans sa peinture, mais je peux pas être dans son être. Non, je reste moi. Et c'est pour ça que la difficulté, c'est d'arriver de se rapprocher le plus près de la personnalité de l'artiste et de faire passer ce que lui a voulu faire passer au-delà de la question, on va dire, purement plastique, picturale ou sculpturale, et d'arriver à saisir cette espèce. Et c'est là où il y a une espèce de trouble, parce que c'est assez fou de se dire qu'on peut arriver à se rapprocher à un tel degré de la sensibilité de l'artiste que vous, par d'autres moyens, par d'autres outils qui, moi, sont les mots, j'arrive à faire passer ce que eux font passer par la peinture. Et ça, c'est terriblement troublant. Et
vous parlez à leur place, quelque part.
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est ce que certains m'ont dit. C'est vrai. Alors, c'est vrai que j'ai eu des témoignages absolument... Mais... Alors, un peintre pas très connu qui me dit ça, ça me bouleverse énormément. Ça doit me bouleverser autant qu'un peintre très connu. Mais c'est vrai que Mathieu, Debré m'ont dit des choses qui moi, me stimulent, me donnent jamais la grosse tête, me déstabilisent pas du tout. Parce qu'à chaque fois, vous savez, tout est à refaire, même si on a son expérience. Mais tout de même, on se dit, alors, c'est pas trop mal, je peux continuer. Mais ça fait un bien fou, vous savez, c'est quelque chose de fou. Moi, très souvent, j'en ai les larmes aux yeux. Maintenant, je suis toujours très émue. Mais c'est vrai que ça m'a très, très secouée d'avoir des commentaires comme ça.
J'imagine. Est-ce que l'écriture, quand vous écrivez pour la Gazette de l'Hôtel de Rouault, donc une écriture plus rapide ou peut-être plus dans l'urgence ?
Alors, c'est une écriture différente ? Ça, c'est dans l'urgence, c'est vrai. Mais alors, comme maintenant les choses se précipitent, j'ai envie de dire que de plus en plus, c'est dans l'urgence. Parce que, l'école de Paris, c'est vrai que je ne faisais que ça à l'époque. Quand j'ai dit que ça, c'est déjà beaucoup, mais je n'étais tournée que sur ce travail, que sur ce travail. Mais genre, à un point que c'était, je dis souvent, ça a été une histoire passionnelle, une histoire d'amour, et c'est vrai. Une histoire d'amour, double histoire d'amour, d'abord parce que j'avais mes proches qui me soutenaient, qui m'encourageaient, parce que parfois il n'y avait pas du découragement, mais je me disais, je ne sais pas où je vais, parce que c'était une montagne, c'était même pas une montagne, c'est l'Himalaya qu'il fallait escalader, j'en voyais jamais la fin, je me disais comment. Et alors plus ça s'accumulait au niveau de la documentation, plus je me disais, mais comment je vais arriver à faire mes textes après ? Et faire des textes sur Mathieu, sur Arthur, sur des gens qui avaient eu des parcours si riches. Ah, c'était mais énorme. Des parcours aussi comme Breyer, des parcours comme Bernard Buffet. Enfin, j'avais une documentation qui était mais colossale. Et après, il fallait que j'en tire quelque chose. Alors, c'est vrai que tous ces peintres qui étaient là, qui étaient dans ma vie, forcément, ça devenait passionnel au bout d'un moment, parce qu'on ne peut pas rester comme ça indifférent. Mais curieusement, et ça je ne peux toujours pas vraiment l'expliquer, si ce n'est que c'est ma formation d'historienne de l'art, c'est qu'il y avait toujours les deux aspects. C'est-à-dire que ça ne se confondait pas. Il y avait toujours mon regard qui restait objectif au départ, Mon analyse que je faisais de la peinture, et je comprenais très bien pourquoi un tel était plus important qu'un autre. C'est-à-dire que Mathieu, pourquoi était-il important dans cette abstraction lyrique dont il était vraiment le fondateur, l'initiateur, et pourquoi lui était essentiel, et d'autres peintres qui allaient se mettre, qui allaient suivre et s'engager dans cette voie de l'informel et du tachisme, qui étaient des beaux peintres, mais qui n'étaient pas des pionniers. Et c'était ça qu'il fallait garder tout le temps en mémoire. Alors j'ai dit double histoire passionnelle, parce qu'il y avait donc mon histoire avec les peintres, et puis mon histoire de mon côté à moi, avec quand même un mari qui me soutenait beaucoup, ma fille qui était petite et qui a vécu vraiment la jeunesse de tout ça, et qui je crois a été marquée, et qui comprenait pourquoi j'étais à ce point aussi attachée à tous ces artistes, avec lesquels c'est vrai, très vite j'ai eu après une proximité, donc c'était une très très belle histoire.
Est-ce que vous avez écrit aussi pour des expositions, des textes pour des expositions ?
Oui, bien sûr. Oui.
Et là, l'écriture aussi doit être différente.
Alors donc, nous parlions de l'urgence. Je vais vite terminer. L'urgence pour l'École de Paris, ce n'était pas vraiment une urgence, puisque j'avais tout le temps pour le faire, si je puis dire. Tout le temps, quand le livre était prêt, il paraissait. Et puis alors après, il y a eu quelques monographies qui ont commencé, parce que forcément, ce livre a quand même, je crois, témoigné de ce dont j'étais capable de faire. Il y a eu ce beau prix qui m'a comblée à l'Institut, le prix de Josse, qui m'a vraiment... Là aussi, c'était comme un grand merci qu'on me faisait, que les artistes m'adressaient à travers ce prix. C'était une reconnaissance. Enfin, ça a été un très, très beau moment. Et un moment aussi que je donnais aussi à mes parents. Et je suis toujours un peu émue quand j'en parle, parce que c'est vrai que j'ai été très, très aidée. Et à mon mari et à ma fille. Ça, c'était important. Donc, après, il y a eu des monographies demandées par des artistes qui m'ont fait confiance. Il y a eu Olivier Debray qui m'a dit « Lydia, il faut que vous écriviez un livre sur moi, on va faire une monographie ensemble.
Bon. » Ah, c'est comme ça que ça s'est passé.
Oui. Et la monographie d'Olivier Debray est venue après l'École de Paris. Et donc, ça a été chez le même éditeur, Ilse et Calandre, un très bel éditeur chez qui j'ai publié peut-être pas loin de 7, 8 livres, 10 livres peut-être, je ne sais plus. Et donc, c'est... Tout est venu comme ça. Et après, ça a été Mathieu. Et après, ça a été Despierres. Et après, ça a été La Tapie. Et après... Donc, on était toujours dans cette espèce de grande famille qui vraiment maintenant s'installait et qui, pour moi, devenait naturelle. Alors, l'urgence, elle est venue avec la Gazette de l'Hôtel Drouot. Parce que la Gazette de l'Hôtel Drouot, ça va faire maintenant presque 10 ans que je tiens cette chronique hebdomadaire. Donc, des pages qui reviennent toutes les semaines. Ça veut dire que je dois être à jour des expositions sur lesquelles je vais parler. Il faut savoir aussi que dans un magazine comme celui-ci, il y a des délais de fabrication, de maquette. Alors forcément, moi, je dois être dans les temps et je me débrouille comme je veux. Mais comme je n'écris que sur ce que je vois, parce que ça aussi, je tiens beaucoup à le dire, mais je pense que ça se sent assez, on me le dit assez. D'ailleurs, on me dit « Ah oui, ben je vois, tu vas voir, vous allez voir les expositions. » Oui, il y a quelque chose sans doute qui doit passer, parce qu'il y a une chose vivante et puis une chose vraie. On voit que le regard a travaillé quand même. Et puis, c'est ma passion. Hein. Donc, il n'y a rien de contraint. Dans tout ce que je fais, aucune contrainte. De la folie, de la passion, mais pas de contrainte. Donc, maintenant, eh bien, depuis presque 10 ans, je rends mes copies toutes les semaines. Il faut que je sois prête. Et donc, c'est une course avec le temps, mais une course qui est formidable aussi. Donc, je suis dans les galeries, mais depuis toujours, je suis dans les galeries. Mais voilà, j'y suis régulièrement. Et je vois les expositions et je fais mes papiers vite, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais enfin, il faut qu'il soit rapidement écrit. Pas bâclé, mais rapidement écrit.
Et enfin, l'écriture des expositions. C'est encore un autre exercice ou ça ressemble en fait aux monographies ?
Oh non, c'est différent parce que d'abord, ça doit être plus concis, c'est plus court, c'est un travail elliptique. Mais en même temps, j'aime écrire comme ça parce que en un feuillet ou un demi-feuillet, il faut que je fasse passer beaucoup de choses. L'essentiel, faut que je convainque aussi parce que les articles que je fais sur ces artistes, c'est parce que je me dis, c'est des artistes qui pour moi comptent. Alors mes choix, ils viennent d'abord de mon regard encore d'historienne qui travaille toujours et qui me dit que ça, c'est bon. Parce que parfois, on me dit, oh là là, tu as écrit, alors. Mais oui, j'écris sur des artistes qui ne sont pas démodés. D'abord, il n'y a pas de mode en art, c'est pas vrai. Et donc, ce sont des artistes qui sont importants, qui ont un vrai langage. Alors, bien sûr, ils vont peut-être pas révolutionner la peinture, bon, mais ils sont là, ils ont vraiment une sensibilité, ils ont un métier, ils disent quelque chose, et avec une intimité, une sensibilité qui leur est très personnelle. Donc, c'est pour ça que je défends des artistes qui sont très connus, mais pour autant, on n'en parlera pas spécialement dans la presse spécialisée. Je défends des artistes qui sont connus, d'autres qui ne sont pas connus, d'autres ce sont des découvertes, ce sont des jeunes artistes. Et tout ça fait que j'ai un panel très, là aussi, très élargi, très, très ouvert sur une actualité artistique qui, c'est vrai, laisse de côté tout l'aspect vraiment, je dirais, avant-garde, parce que c'est pas vraiment mon monde, que moi j'ai vraiment étudié la peinture et la sculpture, que c'est ce qui me semble être l'expression prioritaire pour un humanisme que je continue à défendre, en référence mais aussi par conviction. Donc tous ces grands maîtres que j'ai eus qui, pour moi, ont toujours défendu ceux qui devaient être défendus au moment où ils devaient l'être. Et là, je pense à des grands critiques d'art d'après la guerre. Alors, il y en a certains, bien sûr, que je n'ai pas connus. Hein, des gens comme Guindertal, comme Hertha Wäscher, comme Waldemar Georges, qui sont des sommités et qui faisaient vivre, qui faisaient avancer l'art. Je ne les ai pas connus, mais j'ai connu Jean-Marie Dunoyer, qui a tenu la rubrique dans le quotidien Le Monde, et qui est un homme qui, là aussi, m'a beaucoup apporté. Moi, j'étais étudiante, je lisais ses critiques, je les découpais. Et quand j'ai connu Jean-Marie Dunoyer, bien des années après, alors on était confrères, si je puis dire, moi, bien sûr, étant sa cadette, toujours admirative, et je disais à Jean-Marie Dunoyer, je disais, vous savez, Jean-Marie, j'ai vos critiques, elles sont contenues dans un dossier. Il me dit, c'est pas possible, vous les découpiez. Mais j'ai dit, mais oui, bien sûr.
Et vous les avez toujours ?
Et je les ai toujours. Et vous savez, ce qui est très émouvant aussi, c'est que j'ai pris la suite de ces, je le dis vraiment, mais simplement comme ça, parce que pour moi c'est un immense honneur. J'ai pris la suite de ces grands critiques. Alors grand, je dis grand critique, moi je ne sais pas si je suis une grande critique, mais grand critique, parce que j'ai commencé, il commençait à sortir de la scène, voyez. Alors j'ai parlé de Jean-Marie Dunoyer, il y a Dora Valier qui m'a beaucoup soutenue, et Dora Valier a beaucoup défendu mon livre sur l'École de Paris quand il est sorti, ainsi que Jean-Louis Ferrier. Et voilà des critiques qui ne sont plus là aujourd'hui et qui ont beaucoup milité et qui se sont engagés dans la vie artistique dans les années, pour eux c'était les années 60, 70, et qui ont eu ce regard vraiment d'égal à égal à mon égard. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Donc je dois être à la hauteur. Et je me dis toujours, ma vieille, il faut que tu sois digne d'eux. Digne d'abord des artistes, mais digne aussi de ces grands critiques et de ces grands historiens qui m'ont forcément donné des grands modèles. Et Dora Valier, je me souviens, la dernière fois que je l'ai vue, c'était un an avant sa disparition, et elle m'a dit, Lydia, c'est à vous maintenant, allez-y, c'est vous qui continuez, on est une grande chaîne et vous êtes le maillon qui vient maintenant, qui suivez. Vous savez, je suis, mais pour moi, ça ne peut être que me tenir droite, être digne et bien faire ce que je dois faire. Mais avec un enthousiasme, avec une passion qui ne tarisse pas, parce que je ne peux pas forcément être là avec une logique d'intérêt ou de calcul. Je ne peux pas calculer. C'est des choses qui viennent, que je porte en moi, mais qui sont possibles parce que j'ai des outils, et que plus j'avance dans les années, forcément plus j'acquiers cette, peut-être pas cette aisance, mais des choses qui me semblent certaines maintenant, des certitudes. Alors tous ces grands critiques ont beaucoup compté pour moi, bien sûr.
Merci beaucoup Lydia Rambourg pour cet autoportrait passionnant, enthousiaste. Quelles sont vos prochaines publications, Lydia Rambourg ?
Alors, mes prochaines publications, c'est que les choses s'accélèrent. Alors, j'ai un projet qui me tient très à cœur parce que je suis très attachée à défendre la sculpture. Donc, c'est une biennale de sculpture qui aura lieu à Hyères, dans l'Essonne. Et là, je vais m'occuper donc de cette exposition qui va réunir un certain nombre de sculpteurs, tous vivants, en activité. Je dois dire que les membres académiciens de la sculpture à l'Académie des Beaux-Arts sont tous présents, parce que ce sont tous des grands artistes dans leur domaine, que ce soit l'abstraction ou la figuration. Donc ils seront présents avec d'autres grands sculpteurs. Et je veux montrer la vitalité de la sculpture, qui est mal connue du grand public, parce que c'est très compliqué avec la sculpture. D'abord, il y a peu de galeries. Il n'y a pas de grands amateurs de sculpture, mais peut-être qu'il faut les éduquer. Mais surtout, c'est très compliqué parce que la sculpture est lourde, elle n'est pas facile à vendre et que, enfin, des quantités de problèmes de cet ordre. Donc, je tiens à montrer que nous avons une très, très belle école de sculpture en activité, donc des 3 générations de sculpteurs. Et le doyen qui sera couturier, qui a 101 ans. Et les plus jeunes qui ont une 40aine d'années, ce qui est très jeune pour un sculpteur. Je prépare un livre avec un peintre chinois qui s'appelle Wang Yansheng, qui vient de réaliser une grande peinture pour l'Opéra de Pékin, qui est l'œuvre de Paul Andreu. Et donc, Wang Yansheng inaugure cette peinture à l'automne. Donc, je fais un livre, une monographie pour lui. Et puis, je fais également de nouveau une monographie pour André Brasillier. Et puis on sème, et puis après on a un champ qui est peut-être qui est beau, qui est, il y a une belle moisson. Alors la moisson n'est pas terminée, j'espère pour moi, mais je suis maintenant directrice d'une collection au Cercle d'Art qui s'appelle Mise en Lumière, et c'est dans cette collection que paraît donc le premier livre dont il se trouve que je suis l'auteur, mais c'est venu, c'est pas du hasard, mais il se trouve que j'ai écrit ce livre sur Stoebel et que le livre a été édité par le Cercle d'Art qui venait de créer cette collection avec moi à ce moment-là. Voilà.
Merci encore, Lydia Rambourg, d'être venue dans le studio. Félicitations pour votre entrée à l'Institut.
Ah oui, ça, c'est un immense, immense bonheur, parce que ça me semble être le couronnement de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est vraiment un grand, grand, grand bonheur. Je ne peux pas l'expliquer autrement.
Bravo pour tout et à très bientôt.
J'espère aussi à très bientôt.
Pour de prochaines émissions.
Merci. Au revoir et merci.